Bonjour tous les frères et sœurs, bonjour, vous allez bien? Nous avons une pensée pour notre frère Philippe qui est en train de parler à Ouagadougou, dans l'église de Nicolas, que j'ai encore même pas vu, je ne connais même pas encore cette église. Et je me réjouis de ce que ce soit Philippe qui soit le premier à y parler de la part du Seigneur et de notre communauté. Amen. Que Dieu le bénisse ainsi que tout figue, que tout se passe bien. Et que demain soir, il soit parmi nous, j'espère demain soir ou mardi matin. Que Dieu fasse, amen. On est dans la prière pour ça, que le Seigneur dit, je garde ton départ, je garde ton arrivée. Alors nous croyons cela de tout notre cœur. Que Dieu soit béni. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, verset 8, ce matin. La deuxième partie du verset. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Mon frère, ma sœur, comment peux-tu devenir de plus en plus conscient de l'Esprit Saint qui est en toi? Sinon, par ses effets. Parce que, en fait, tu ne peux pas le voir avec tes yeux, tu ne peux pas l'entendre avec tes oreilles. Comment donc peux-tu percevoir le Saint-Esprit qui est en toi? Peut-être que ce matin, tu n'es pas particulièrement dans une joie exubérante, tu as des problèmes. Peut-être que tu es affligé en toi-même. Mais, si le Saint-Esprit est en toi, alors tu inspires la joie aux autres. Et les autres réagissent avec joie envers toi, parce que le Saint-Esprit produit cela au travers de toi. Maintenant, c'est une chose que j'ai vécue souvent, que je vis encore à l'heure actuelle, même maintenant. Cependant, ce que le Saint-Esprit veut, c'est que tu sois toi aussi dans la joie. Il ne veut pas seulement se servir de toi pour être un faiseur de joie, que tu procures la joie aux autres, mais il veut que toi aussi tu sois dans la joie. Et pour cela, il faut que tu aies des moments où tu entres en toi-même pour aller à la source de cette joie, c'est-à-dire que tu ailles au Saint-Esprit, que tu ailles au Seigneur Jésus-Christ lui-même pour trouver ta consolation et ta joie, cette source, parce que sinon elle va tarir. Parce que tu donnes, il faut recevoir. Et si tu ne fais que donner et que tu ne vas pas à la source toi-même, alors tu vas voir dans la réaction des gens. Les gens vont avoir des réactions différentes avec toi. À ce moment-là, tu vas pouvoir te rendre compte, faire une évaluation de la constance du Saint-Esprit en toi. De la place que toi, tu lui accordes. Bon, la tristesse, ça peut atteindre n'importe quelle personne remplie du Saint-Esprit, mais cette tristesse, elle ne doit pas être l'état général de la vie. Ça ne doit pas être ce qui marque la majorité de tes jours. Tu dois être constant. Le Saint-Esprit, lui, il est constant. Mais la Bible nous dit que nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit. Si on ne sort pas de cette tristesse, si on ne va pas à lui, si on n'entre pas en communion avec lui, le Saint-Esprit finit par s'attrister aussi, se retire. Mais il faut que tu veuilles être constant. Beaucoup de gens se plaisent, n'est-ce pas, dans leur malheur, dans leurs problèmes, parce que c'est un moyen pour eux d'attirer l'attention afin que, voilà, on s'occupe d'eux, alors voilà, ils ont l'air tristes et tout le monde a de la sympathie pour eux. Il faut que tu veuilles être constant, en communion constante avec le Saint-Esprit. Et pour arriver à se vouloir, à vouloir être constant, à vouloir être en communion constante avec le Saint-Esprit, tu as besoin d'un savoir. Ce savoir, c'est que tu dois absolument être certain de la présence constante du Saint-Esprit avec toi. Sa volonté, c'est d'être constamment avec toi. Sa volonté est d'être constamment avec toi, non pas simplement pour être au chaud à l'intérieur, mais pour être avec toi
dans ce que tu vis.
Si on lit l'Ancien Testament, je vais vous faire réaliser quelque chose. Si vous lisez l'Ancien Testament, quelle notion les gens, les croyants de l'Ancien Testament avaient-ils du diable et de l'action des démons? Savez-vous que le mot diable n'est pas écrit une seule fois dans l'Ancien Testament? Savez-vous que les mots démon, démoniaque ne se trouvent pas du tout dans l'Ancien Testament, mais pas du tout? Les mots mauvais esprit n'existent pas dans l'Ancien Testament, pas du tout. Quand il est question d'invoquer des esprits, c'est même pas écrit des mauvais esprits, c'est question de gens païens, non-juifs, qui invoquent des esprits. Et Dieu leur dit, vous, mon peuple, ne faites pas ça. C'est écrit 6 fois ça. Le mot malin, le malin, n'existe pas dans l'Ancien Testament. Savez-vous qu'on ne trouve que 18 fois le nom de Satan dans l'Ancien Testament, dont 14 fois dans Job, qui n'était pas un juif. 2 fois on le trouve dans Zacharie, mais dans le même texte. Dans Zacharie, il est question de Josué, si vous préférez de Jésus, c'est Josué et Jésus, c'est le même nom, qui est... Satan est en train d'accuser Jésus, et Jésus démontre, et Dieu démontre à Satan qu'il est vaincu par, justement, par Jésus. C'est dans Zacharie 3, 1 et 2. C'est juste deux versets qui se suivent. Et une fois dans 1 Chronique 21, 1, il est dit que Satan a excité David à faire le dénombrement. Mais c'est tout. Donc c'est pour des grandes affaires. Des grosses histoires. Et c'est tout. Par contre, on y parle 113 fois, dans l'Ancien Testament, 113 fois de l'action des anges de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, j'ai arrêté de compter, plus de 200 fois, les anges. Je ne veux pas dire du mal des chrétiens, mais est-ce que vous entendez parler de quoi? Des anges ou des démons dans les milieux chrétiens? Vous entendez beaucoup plus parler des démons que des anges. Alors que la Bible parle infiniment plus des anges que du diable, des démons, de Satan, du malin, gna. Oui ou non? Alors voilà, bon. Les croyants de l'Ancien Testament ne disaient jamais « Oh, ça, c'est une attaque du diable. » Du diable. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'époque, le diable n'existait pas autant qu'aujourd'hui. Bien sûr qu'il existait. Mais si vous aviez eu la possibilité, à l'époque, d'entrer dans le quartier général du mal où le diable trône et où il réunit ses démons, eh bien vous les auriez entendus dire « Oh, ce qui nous arrive là en ce moment, Satan, c'est une attaque de Moïse !» Ou alors, là en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment une attaque grave qui nous vient d'Ézéchiel ou de Daniel. Hein? Voilà. Vous les auriez vus, vous les auriez entendus se plaindre. Oui, c'est pas juste, Dieu il chouchoute les siens, c'est pas juste, il les couvre de bien, il les protège, il leur donne l'abondance, il est leur guérison, il est tout pour eux, c'est pas normal, on est déprimés. On n'a pas le droit de les attaquer, à moins d'aller demander la permission à Dieu. Job chapitre 1, versets 9 à 12, moi c'est ce que je vois dans ma Bible, hein. C'est ça qui se passait. Une bande d'esprits frustrés. Voilà. Voilà ce que vous auriez vu à cette époque. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la Nouvelle Alliance? Est-ce que ça a changé? Est-ce que tout à coup, le diable a fait de la muscu, et puis il y a une hache combalaise, et puis les chrétiens... Eh bien non, mes frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que Dieu nous a fait l'insigne honneur de nous remplir de son Saint-Esprit, non pas pour qu'on passe 10 minutes, un quart d'heure par jour à parler en langue, c'est très bien de parler en langue. Je parle beaucoup en langue. pour mon édification personnelle afin de pouvoir ensuite édifier les autres. Mais il nous a fait l'insigne honneur de nous remplir de lui-même, de son esprit, afin que sa volonté soit faite par nous. Et quelle est sa volonté? Nous venons de le lire. Il veut détruire les œuvres du diable. Il est venu pour ça. Le Fils de Dieu est venu pour détruire, il est paru pour détruire les œuvres du diable. On vient de le lire. Et si tu es un fils de Dieu, si tu es une fille de Dieu, si tu appelles Dieu ton Père, ça veut dire que tu es son enfant, alors tu as été envoyé par ton Père sur cette terre pour détruire les œuvres du diable en coopération avec Dieu qui vit en toi. Et tout le monde dit, pauvre diable! Pauvre diable! C'est lui l'attaqué! C'est pas nous, c'est lui l'attaqué. Lui, s'il vous attaque, arrêtez. Mais non, c'est vous qui l'attaquez, lui ne peut que se défendre. Évidemment, si vous restez tout le temps les mains dans les poches, il s'amuse de temps en temps avec vous, parce que vous êtes un mollasson, parce que vous n'êtes pas spirituel. Alors, de temps en temps, il joue un peu avec vous, il vous enquiquine. Ça l'amuse, c'est sa récréation, c'est sa cigarette après l'amour. Ne lui laissez jamais l'occasion de vous attaquer. Attaquez-le sans cesse. Ne lui laissez aucun répit. L'ennemi sur terre, c'est pas le diable. L'ennemi sur terre, c'est vous. J'explique. Le diable, c'est le prince de ce monde. Voilà ce que la Bible nous dit. D'accord. Il est chez lui. C'est son royaume. Dieu lui a donné une certaine autorité sur cette terre. Il a des droits sur cette planète. Il a ses sbires. Hein, il a ses suppôts, les étoiles, ses agents, que ce soit des agents humains ou des agents spirituels, il a des agents, et puis il y a nous. Nous sommes son pire cauchemar. Voilà ce que nous sommes. C'est nous l'ennemi. Il faut commencer à croire ce que la Bible dit, et non pas ce que toutes ces fables, ce qu'on nous raconte, ces fables, ces machins. Le diable nous a attaqué. Oh, il faut prier parce que le diable va nous attaquer. L'esprit de l'Est, l'esprit de l'Ouest, l'esprit du Sud, l'esprit du Nord, les mauvais esprits. Oh, il y en a là-dessous. C'est des foutaises pour vieilles bonnes femmes déséquilibrées. Voilà. L'ennemi, c'est nous. Le pire cauchemar du diable, c'est nous. Nous avons été placés sur la terre pour détruire les œuvres du diable au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant. Amen. Oh, j'aime ça. Nous sommes venus pour ça. Pour établir un règne nouveau, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons affaire. Et nous avons à dire, en son nom, sur cette terre, nous avons à ordonner, nous avons à donner, en son nom, sur cette terre. Alors, ne pensez pas que Dieu met une limite au sujet de donner. Il faut penser juste. Écoutez ça. Et puis ensuite, pensez-y. Dieu n'a pas mis de limite pour donner. Simplement, tu as mis une limite à recevoir. Tu dois donc donner sur cette terre, donner de la part de Jésus. Mais tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Et, je te le dis, la décision de recevoir pour pouvoir donner, c'est la décision d'accepter. D'accepter. Maintenant, laisse-moi te poser une énigme. Combien Dieu a-t-il de fils? La Bible semble se contredire. Jean 3, 16, Dieu a un fils unique. Par contre, Job 1, 6, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Y a-t-il un fils ou y a-t-il des fils? Dieu a un fils. Et les connaissant tous, cela n'en fait qu'un. Que celui qui a les oreilles pour entendre ça l'entende. C'est une énigme pour beaucoup, parce que beaucoup pensent de façon égoïste, moi et les autres. Écoutez bien ça, et pensez-y. Jésus dit, si tu fais quelque chose à quelqu'un, c'est à moi que tu le fais. Matthieu 18, 6. Est-ce que cela ne signifie pas que nous sommes un? Si tu fais quelque chose à quelqu'un, c'est à lui que tu le fais. Mon frère, ma sœur, tout ce que Dieu a fait font partie de toi et partagent ta gloire. Ta gloire. Sa gloire lui appartient, mais elle est également à toi. Tu ne peux pas être moins glorieux que lui. Tu ne peux pas être moins puissant que lui. En fait, Dieu est plus que toi uniquement parce qu'il t'a créé. Si seulement tu crois dans sa présence en toi, si seulement tu crois dans sa présence en toi, si seulement tu crois dans sa présence dans tes frères et sœurs. Il y a un texte dans la Bible qui dit « Éveille-toi, éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, réveille-toi. » Alors si tu t'éveilles, tu connaîtras qui tu es, tu connaîtras à quel point Dieu t'aime, à quel point il désire aimer les autres au travers de toi. Ta décision de recevoir pour donner, c'est ta décision d'accepter ton illimitation. Je répète, ta décision de recevoir pour pouvoir donner, c'est ta décision d'accepter ton illimitation. Combien de gens peuvent croire? Qu'est-ce que tu n'as pas? Je me rappelle que nous étions chez Frère Osborne avec la Michou. Un jour, on était assis à son bureau et on discutait au sujet de l'avenir, de ce que nous allions faire en France. Et nous disions que nous voulions acheter un château et nous faisions des projets. Tu te rappelles, chérie? Et il nous faisait parler, qu'est-ce que vous voulez encore, et qu'est-ce que ceci, et que cela. Et au bout d'un moment, il a dit, bon, maintenant, vous allez rentrer chez vous. C'était juste le soir. Et avant de venir manger, pensez, réfléchissez et mettez sur un papier, qu'est-ce que vous avez déjà? Qu'est-ce que vous avez déjà? Alors on avait fait ça, hein. On n'était pas comme les Burkinabés qui sont venus, puis je leur disais de faire quelque chose, ah non, c'est enfantin. D'accord, laissons-les, c'est enfantin pour eux, nous on est des enfants, hein. On a accepté. Le serviteur de Dieu a dit, on le fait. Voilà, alors on a fait la liste. Qu'est-ce que Dieu a? Qu'est-ce que nous avons déjà? Tu as reçu sa gloire. Romains chapitre 1, verset 5. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Romains 8, 15. Le monde a un esprit. Hein, on vient de lire. Le monde a un esprit. Le monde a un esprit de servitude. Mais nous n'avons pas leur esprit. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 12. Notre esprit, celui que nous avons reçu de Dieu par pure grâce, nous rend supérieurs. Supérieurs. Supérieurs à ceux qui ont l'esprit du monde, qui n'est qu'un esprit de servitude. J'ai vu hier dans le film Alexandre, il parlait de Darius, en disant, oui d'accord, ils ont quatre fois plus de soldats, mais c'est tous des mercenaires. C'est tous des gens qui sont esclaves, qui l'a ramassé à gauche, à droite, et ils sont bien obligés de se battre. Tandis que nous, nous sommes derrière notre roi, et nous sommes du même pays, nous sommes un seul cœur, une seule âme, un peuple. Voilà. Ben, c'est exactement la même chose. On n'est pas là dans le combat parce qu'on est des serviteurs, on est des fils de Dieu, on est avec Dieu, Dieu est avec nous, c'est le même combat. On sait que la victoire est au bout. On n'est pas des mercenaires. On est supérieurs à cela. Notre position d'esprit, notre position de pensée, tout cela, nous sentons mieux. Maintenant, cet esprit venant de Dieu fait de nous des êtres d'exception. Mais on n'a pas à s'en vanter parce que ce que nous avons, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu par grâce. 1 Corinthiens 4, 7. On ne va pas aller vers eux en disant « là, l'air, je suis supérieur, et puis pas toi, bisque, rage, au nom de Jésus, ceci, au nom de Jésus, cela, regarde ce que moi je fais. » Pourquoi c'est stupide. On ne peut pas. Jésus, le Fils unique de Dieu, il avait un corps humain, et dans ce corps, nous dit l'apôtre Paul, habitait toute la plénitude de la divinité. Pensez-vous, toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Et Paul affirme haut et clair dans le verset suivant, verset 10, et vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire quoi? La plénitude de la divinité. Qu'est-ce que tu as? la plénitude de la divinité.
Qu'est-ce que ça signifie, tout pleinement? Qu'est-ce que ça signifie? Comment peux-tu devenir plus conscient de la plénitude de Dieu en toi, sinon par ses effets? Par ses effets! Que fait-il par toi? Qu'a-t-il déjà fait par toi? Qu'a-t-il dit qu'il voulait faire par toi? Alors, sois constant, comme il l'est, pour le voir agir par toi. Tout ce que tu vis, ça ajoute quelque chose à ton entièreté. Je vois un mot, je ne crois pas qu'il existe, hein, l'entièreté, mon entièreté. Bon, on s'en fout, on comprend ce que ça veut dire. Hein. Tout ce que tu vis, mon frère, ma sœur, ça ajoute à ton entièreté. Tu as tout pleinement en lui, c'est vrai, tu as tout pleinement en lui. Mais chaque expérience, chaque moment, chaque rencontre, chaque tout ce qui t'arrive, chaque moment, c'est une partie de ce tout. Et en vivant le moment précis pleinement, dans la gratitude, alors tu ajoutes à ton entièreté, tu prends conscience, tu deviens conscient des effets que produisent le Saint-Esprit en toi, autour de toi, et tu en prends conscience. Tu n'es pas un moment suivi. Ça va?
Ouais, comme un lundi.
C'est pas aujourd'hui, ben c'est la même chose qu'hier, puis demain sera pareil, puis voilà, puis de toute façon c'est comme ça, le matin, vous devez pour aller à la réunion de prière, puis après un petit déjeuner, puis après on part au travail, puis après on rentre pour manger, puis après on va se reposer un moment, puis après on retourne au travail, puis après on rentre, puis on mange, puis après on regarde un peu la télé, puis après on va dodo. Regarde la télé, puis dort. Ça, les païens le font. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais on a quand même quelque chose de plus grand à faire que ça. On a quelque chose de plus grand à être que ça. En réalité, ce dont je vous parle, c'est... Je vous parle du réveil de l'épouse. Quand tu t'éveilles en lui, c'est-à-dire quand tu prends conscience que tu es en lui, alors tu connais ton immensité en acceptant pour tienne son illimitation. Mais avant cet éveil, avant d'être éveillé, ben tu jugeras ton illimitation comme tu juges celle de ton frère et de ta sœur. Ce que le Saint-Esprit fait, mes frères et sœurs, c'est de se servir de chacun de nous pour nous éveiller les uns les autres. Et quand on voit les autres s'éveiller, alors, on apprend ce que ça signifie, s'éveiller. C'est ce qui arrive à ceux qui prêchent, c'est ce qui arrive à ceux qui témoignent. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons des témoins en action et en parole. Et quand on entre dans ce processus de témoigner avec le talent qu'on a, eh bien, on s'aperçoit l'effet que ça fait chez les autres. Et ça nous éveille. Oui? En pressant, en témoignant, en action, en parole, en œuvre, on ouvre sa bouche, par exemple, et Dieu la remplit de mots qu'il veut dire lui. Et si on a la bouche fermée tout le temps, si on ne cherche pas à rencontrer des gens, si on ne cherche pas à faire valoir son talent, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse par nous? Ce n'est pas un violeur. Et souvent, les prédicateurs sont inspirés à ce moment-là, à ce moment précis. Et ils disent des choses qu'ils ignorent eux-mêmes, même l'apôtre Pierre, il disait des choses qu'il ignorait lui-même. Écoutez-le dire, voilà ce que vous voyez là, le jour de la Pentecôte, c'est ce que le prophète a dit, je répandrai mon esprit sur toute terre, et ils seront mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Puis après l'apôtre Pierre, il dit non, quand il redescend de nouveau sur terre, hein, quand il se rendort là dans son confort spirituel, c'est pour nous les Juifs, faut pas les païens. Comprenez rien du tout, mais quand il était en train, de se mettre au service, laisser passer le Saint-Esprit, laisser le Saint-Esprit parler, alors il disait des choses qui le dépassaient, ça créait l'éveil. Et s'il avait été attentif, eh ben, il serait resté dans cet éveil. Dieu a dû le secouer un peu pour qu'il revienne et puis qu'il y reste. Alors, c'est la même chose pour les actions. Quand tu te mets à faire ce que tu sais que tu dois faire, ce que Dieu veut que tu fasses, parce que c'est écrit,
fais ceci, fais cela, donne à celui qui n'a pas, etc., etc.
Alors, tu éveilles les autres. Parce que Dieu travaille par toi, au travers de toi, et tu te mets à faire des actes supérieurs, et de plus en plus supérieurs. Tu te mets à faire des choses héroïques, des choses dont tu ne pensais pas être capable. Tu te mets à faire des sacrifices, tu te mets à faire des miracles même. Et des actions de renoncement que tu ne pensais pas être capable de faire. Et tout ça, ça t'est inspiré par Dieu. Dieu te donne la force pour le faire. Et puis ça éveille les autres. Et ça te montre à toi-même que celui qui est en toi est vraiment plus fort que celui qui est dans le monde. Que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas cet esprit de servitude. Que toi, tu es plus fort, tu es au-dessus de ça. Mais si tu ne rentres pas dans l'action, rien. Tu es un bonhomme qui se lève, qui va faire son travail pour le monde, qui gagne son argent, qui paye ce qu'il doit, comme tout le monde, et puis qui va se coucher avec l'espoir que demain, il va pouvoir recommencer à aller travailler pour pouvoir manger, pour pouvoir aller encore travailler, pour pouvoir manger, pour pouvoir encore travailler, pour pouvoir encore aller manger. Tu es une grosse nouilleté. Tu ne sers à rien dans le royaume de Dieu. Voilà. Il faut que je te le dise. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour témoigner. Et l'ordre est, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Et tu vas éveiller la gratitude chez les enfants de Dieu. Et tu vas éveiller la haine chez les autres. Mais c'est normal. C'est normal. Tu vas éveiller la jalousie, tu vas éveiller la méchanceté. Pas seulement des êtres humains, mais aussi des esprits de maladie, des esprits de toutes sortes de mauvais esprits. On vit des choses en ce moment où on sait de quoi on parle. Mais c'est normal. C'est parce que nous avons déclenché la guerre. Alors on prend quelques blessures, c'est sûr. J'ai vu Alexandre le Grand au début, c'était un jeune minet, puis à la fin il était tout balafré. Vous avez vu le film ? Faut voir ce film. Les gens deviendront les témoins de ta réalité, c'est-à-dire de ce que tu es. Comme toi, tu étais témoin de ce que Dieu est. Alors, je parle de miracle. Qu'est-ce que c'est les miracles ? Qu'est-ce que c'est un miracle ? Ce sont des choses que Dieu ne fera plus dans l'éternité. Et pourquoi il ne fera plus de miracles ? Parce que les miracles sont des actes réparateurs. Et quand il aura détruit la terre et tout ça, détruit le diable, les démons, tout ce chenille et tous ces suppositoires de Satan, quand il aura détruit tout ça, il n'y aura plus besoin de faire des actes réparateurs, il n'y aura plus besoin de miracles. Mais écoute bien ça. Tant qu'il y aura besoin de guérison physique, mentale, financière, etc., etc., les miracles seront les seuls témoins de ta réalité. Que tu es réellement un enfant de Dieu. Frère Osborne, il m'a fait réfléchir. Il m'a dit quelque chose là-bas quand je suis allé avec Marc chez lui. Pas beaucoup, il répétait presque. Vous savez comment il est, le frère Osborne? Il dit une chose, puis après il le répète, et puis il attend, et il répète encore. Et c'est resté gravé en moi. Il dit, qu'est-ce qui prouve que Dieu a créé le monde comme la Bible le dit? C'est peut-être des Juifs qui ont raconté ça, c'est peut-être faux. Qu'est-ce qui prouve que la mer Rouge s'est ouverte et que les Juifs ont passé? C'est peut-être simplement une bande de Juifs qui ont raconté ça. C'est peut-être faux. Quelle preuve on a? Quelle preuve est-ce qu'on a que Jésus est mort sur la croix, qu'il a porté nos péchés? Peut-être c'est encore une bande de Juifs qui ont raconté ça et puis nous on s'est laissé avoir et puis on s'auto-suggestionne. Peut-être. Quelle preuve est-ce qu'on a qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel? Quelle preuve? Il n'y a aucune. Mais, quand on prie et qu'il y a des miracles, là, ça prouve tout le reste. Amen. Ça prouve tout le reste. La puissance de Dieu. Et nous sommes appelés à faire des miracles pour les autres. Parce que c'est la seule façon de donner. C'est de faire des miracles. Dieu donne au travers de nous. Et tout ce que Dieu donne, c'est toujours un miracle. De donner, oui, mais aussi obligatoirement de recevoir. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et il faut aussi qu'il y ait un vis-à-vis qui reçoive ce qu'on a à donner. Ce que tu donnes, c'est toujours un miracle. parce que tu donnes à celui qui n'a pas. D'ailleurs, Jésus t'encourage de donner à celui qui n'a pas, de façon à ce qu'il ne puisse pas te rendre. Jamais, tu ne puisses jamais te rendre ce que tu lui as donné. Parce que il faut que ça demeure des miracles. Tu donnes à celui qui n'a pas, et voilà que c'est un miracle pour lui, à celui qui a besoin. Dieu se sert de toi pour agir. Ton action, c'est un miracle. Une action de Dieu, une action d'amour, une action réparatrice. Est-ce que tu peux accepter ça? Si tu acceptes ça, c'est que tu es un enfant. Tu as un cœur d'enfant, un cœur selon Dieu. Si tu acceptes cette pensée, cette idée. C'est-à-dire, tu te dis, ok, je donne parce que Dieu m'en a donné le pouvoir. Qu'est-ce que j'ai reçu? De quoi je vais me vanter? Ce que j'ai reçu, c'est que ben, je l'ai reçu. Gloire à Dieu, voilà. J'ai un talent, je l'ai reçu. Personne n'est comme moi. Je peux faire ça parce que ça je l'ai. Et ça ne te conduira pas à l'orgueil, mais à l'humilité. Ça te conduira à la gratitude, parce que tu penseras juste d'une façon juste. Les gens diront que tu es orgueilleux. Mais t'en fous. Comment être orgueilleux d'avoir fait un miracle? Comment être orgueilleux d'avoir fait un acte réparateur? D'avoir donné à quelqu'un qui n'avait pas de santé? Comment être orgueilleux d'avoir donné à quelqu'un qui n'avait pas d'argent? Comment être orgueilleux d'avoir donné à quelqu'un du courage parce qu'il n'en avait pas, de la joie ou de l'espérance? Comment être orgueilleux de ça? On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et ce qu'on a reçu, c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors on n'a pas à être orgueilleux, puis on ne va pas tomber dans l'orgueil. Donner, c'est détruire les œuvres du diable. Le diable est un voleur, Jésus est un donneur. Amen. Le diable est un voleur de joie, un voleur de courage, un voleur de santé, un voleur de vie, un voleur d'enthousiasme, un voleur de paix, un voleur d'amour, un voleur d'argent, un voleur de beauté, un voleur de santé, un voleur d'honneur. C'est un voleur. Il est venu pour voler, pour détruire. Mais Jésus, c'est un donneur. Il ne fait jamais rien payer. Il donne. Et il nous envoie aussi avec la même plénitude. Il nous envoie avec la plénitude qu'il avait lui-même. Et c'est à nous de la démontrer en donnant de sa part, en donnant en son nom la paix à ceux qui n'ont pas, la gentillesse aux gens, l'honneur à ceux qui l'ont perdu. En donnant de sa part, en son nom, de la valeur aux gens, en donnant des sourires aux gens, en donnant de l'espoir aux gens, en donnant de sa part. En donnant en son nom, c'est ça que ça veut dire en son nom, en donnant de sa part tout ce que nous pouvons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Ça nous éveille. Ça vous éveillera. Ça éveillera l'Église. Non, elle dormira toujours. Ça éveillera l'épouse dans l'Église. Amen. L'Éternel a tant aimé qu'il a donné. L'Éternel. Notion, l'éternité. Ça semble abstrait, hein, l'éternité, ça peut te sembler abstrait, jusqu'à ce que tu te souviennes des bras ouverts de Dieu sur la croix, et que tu vois que ces bras ouverts, en fait, c'était son esprit ouvert. Aie un esprit ouvert. Amen. Merci Jésus. Merci de nous enseigner dans ces moments difficiles que nous passons. Eh bien, que nous pouvons nous éveiller en faisant ce que tu faisais, en disant ce que tu disais, en ayant tes attitudes, en ayant tes intentions, en proclamant les choses, en faisant les choses de ta part, en ton nom. Merci Seigneur Jésus de nous donner le chemin, la clé, pour pouvoir nous sortir de la torpeur, de la crainte et de toutes ces choses que le monde essaye de mettre en nous au travers d'erreurs religieuses et de choses comme ça. Merci Seigneur de nous éclairer par ta parole pour que nous puissions savoir, oui, nous sommes aimés, tu nous aimes et tu nous as mandatés, tu nous as envoyés et nous avons tout pleinement en toi Jésus pour aller faire ce que tu nous as dit de faire, dire ce que tu nous as dit de dire avec toute cette onction d'amour, de force, de puissance, d'amour. Merci Seigneur Jésus, merci infiniment de nous avoir encore éclairés ce matin. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Amen.
Je crie vers toi quand la nuit m'entoure. J'appelle vers toi, Seigneur. Tu viens apaiser mon cœur. et j'entends ta voix au-dessus du vent. Tempête, calme-toi maintenant, même tais-toi et fais silence. Jésus est aujourd'hui le même hier éternellement. Il sait répondre à nos prières, il sait apaiser nos tourments. Et quand le soleil dessèche ma peau, quand mes pieds sont là de marcher, je pense à toi, ô Seigneur. Et j'entends ta voix comme la rosée, des fleuves d'eau couleront de tous ceux qui croient en moi. Jésus est aujourd'hui le même hier éternellement. Il sait répondre à nos prières, il sait apaiser nos tourments. Dans l'immensité, l'infini du ciel, tes mots éternels sont inscrits avec le sang de la croix. Et j'entends ta voix parler à mon cœur. Celui qui croit est sauvé, il a la vie éternelle. Jésus est aujourd'hui le même hier éternellement. Il sait répondre à nos prières, il sait apaiser nos tourments.